Bonjour à tous. Je remercie Anne Maillor, Eric Usegom et Vincent Negri de m'avoir invité à ce débat qui se profile très intéressant. Je vais essayer de aussi à partir des problématiques qui ont alimenté ces premières communications de notre débat, je vais essayer donc de vous proposer une approche plus qui est propre à l'anthropologie sociale, qui évidemment réservera quelques petites surprises par rapport disons au discours courant qu'on est habitué à entendre dans le domaine du patrimoine. Donc, comme tout le monde sait peut-être, les anthropologues sont souvent considérés comme des casse-pieds, surtout par les archéologues, parce qu'ils ont la très mauvaise habitude et l'impolitesse de déstructurer ces structures que les archéologues adorent construire. Donc, ce que je vais essayer de faire justement, pour ne pas me démentir, c'est de déstructurer un peu certaines approches qu'on prend pour des acquis du discours sur le patrimoine, essayer de dégager quelques rapports de force que le discours sur le patrimoine sous-entend. Donc, dans ce contexte, donc, je vais proposer aussi, en changeant un tout petit peu par rapport aux très intéressantes questions qui sont survenues, une analyse du discours public sur le pillage dans ce cas, à travers la confrontation entre ce qu'on appelle la rhétorique du matériel, et cette expression material rhetoric vient d'une archéologue américaine qui effectivement a beaucoup écrit Rosemary Joyce sur effectivement ce pouvoir de la visibilité et de la matière, du matériel par rapport à la création politique et institutionnel du patrimoine et surtout du patrimoine matériel. Donc, je vais essayer de proposer cette confrontation entre la rhétorique du matériel étatique, évidemment. Donc, on parle de législation, de traces de pillage, de corpora delicti, donc tout le matériel de fouille utilisé par les fouilleurs. Et par contre, une approche que je développe depuis quelques années qui est celui de la corporéité. Des actes de production, et là je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Pierre Demarais, effectivement les anthropologues, et ça c'est l'élément porteur vraiment de la différence de perspective souvent entre l'anthropologie sociale et le discours officiel, entre autres de l'UNESCO aussi, sur le patrimoine, c'est qu'effectivement, il y a des critères de sélection qui, comme dans toute sélection, éliminent une partie essentielle du vécu humain à partir de critères gérés par des élites, bien sûr. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'effectivement, on peut se questionner sur, d'un point de vue éthique aussi, sur l'inégalité sociale que la construction du patrimoine officiel sous-entend. Comme je vais montrer tout à l'heure, ce discours sur la confrontation matérialité-corporéité implique justement cette remarque de l'absence des actes de production dans le discours sur le patrimoine. En ce qui me concerne, je travaille sur les fouilles villageoises des sites archéologiques depuis 1991 au Mali. Et donc, au fil du temps, j'essayais vraiment de m'orienter sur les filières locales du commerce et surtout sur le vécu quotidien des activités de fouilles, des paysans fouilleurs maliens engagés dans ces activités qui souvent sont conçues par eux-mêmes comme des activités saisonnières comme tant d'autres. Donc on peut dire que je suis vraiment obligée de faire un très rapide survol sur la question qui est très très complexe. Tout le monde sait pertinemment qu'après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment la matérialité a constitué la condition première du patrimoine culturel en s'imposant en raison de la nature juridique qui a été donnée à ce concept et surtout au concept de bien culturel par rapport justement au droit de propriété. Donc, souvent, justement, suivant le devoir de traçabilité imposé aux objets par la législation internationale contre, évidemment, ce qu'on appelait le trafic, je dirais illégal et pas illicite, parce que le concept de illicéité sous-entend aussi des choix de normes sociales qui ne sont pas tout à fait des normes étatiques. Donc, contre le trafic illégal d'objets ethnographiques et archéologiques, donc la visibilité est devenue une condition prioritaire de la perception et de la gestion des objets en tant que bien. Donc, on parle justement de bien culturel, mais pour les anthropologues, c'est une projection, c'est une vision essentialiste, évidemment, de l'objet. On donne une connotation très typée, qui est celle, évidemment, de la démarche juridique. Donc, d'autre part, dans les dernières années, le domaine des Heritage Studies a été confronté donc, à ce passage qu'avant, disons, surtout dans le milieu de la muséologie, on voyait ces Heritage Studies vraiment comme le plein domaine de la muséologie, justement, donc de la préservation, de la conservation. Et petit à petit, on a glissé vers une approche plus sociale du patrimoine, que, à mon avis, on peut résumer aujourd'hui en deux, sur deux volets. Donc voilà, il y a une approche très sociologique, je résume vraiment de manière très élémentaire, qui est celle de la sociologie économique. Je pense à mon collègue Simon McKenzie, qui a publié en 2005, un livre qui s'occupe surtout d'aspects législatifs de la circulation des objets d'art, donc Going Gone en 2005, où il parlait effectivement de la circulation internationale des objets archéologiques. Et en 2009, il a essayé cette comparaison par rapport à la sociologie, donc la criminologie et l'archéologie, par rapport au trafic d'objets pillés. Donc là, on voit qu'il y a un début, un changement, quand même un tournant vers le social, mais on reste quand même dans une dimension très binaire, donc légale, illégale. Une autre approche est celui de l'anthropologie sociale la plus récente et quelque part de ce qu'on appelle « critical heritage issues », donc voilà, qui essaye de voir cette circulation des objets, parce qu'on parle quand même d'objets, dans le cadre de ce qu'on appelle les rapports de agency ou agencement en français, mais le mot anglais est mondialement reconnu, et donc dans les dynamiques d'échange. Et dans ces dynamiques d'échange, il y a bien sûr aussi les problématiques liées à l'éthique. Donc, je reviens au débat très intéressant qu'on a entamé tout à l'heure. Donc, on parle évidemment de mémoire et on se demande la mémoire de qui. Parce que ces pilleurs ont une mémoire très affective par rapport à ces objets qui, pourtant, est complètement effacée dans le discours public et qui, quand même, je veux dire, constitue une partie importante, essentielle, de la circulation de ces objets au niveau international. Donc c'est vraiment le premier maillon de la chaîne qui est un peu quelque part offusqué et que les anthropologues essayent d'approcher pour que le discours sur le patrimoine soit un peu plus équilibré. Donc on a une confrontation de valeurs entre système hétérogène de valeurs, donc on a évidemment les auto-représentations des fouilleurs quelque part là aussi en contraposition avec la représentation là aussi assez linéaire du discours public sur le patrimoine, alors que les fouilleurs véhiculent ce qu'on appelle en anthropologie des temporalités refractées, c'est-à-dire que on cherche plutôt, au lieu que dans l'acquis, on cherche dans l'absence. On cherche dans le caché. Donc, ce sont des temporalités caractérisées par des compromis, par des contradictions aussi. Et là aussi, je voudrais intervenir rapidement à propos de ce que Amadi Boku me présentait comme patrimoine en exil et patrimoine en danger. Et là, on a présenté à Londres en 2005 au premier colloque à Aegis un panel sur le concept de perte, donc perte et danger. Et donc là aussi, on a vu qu'en fait, ce concept de perte et de danger est très relatif. Par rapport à ce que Amadi Bogoum disait, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on parle, par exemple, de dons. On met les dons quelque part, qui souvent sont des dons empoisonnés, dans la catégorie de ce patrimoine en exil. Parce qu'en fait, si on va là aussi déstructurer la situation, souvent il s'agit de dons un peu forcés. Quelque part, parfois, on oblige les musées à faire des dons. Donc, pour les anthropologues, c'est très intéressant de fouiller un petit peu justement là-dedans et de voir comment ces dynamiques sociales se mettent en place et à partir de quel rapport de force. Donc là, pour revenir justement au concept de corporéité que j'ai essayé rapidement d'esquisser, on a vu qu'il y a déjà eu des tentatives en ethnologie et en histoire, surtout à travers les remarquables travaux de Jean-Pierre Varnier, qui a proposé ce concept d'approche praxiologique, donc des représentations et des objets, toujours dans ce discours de circulation, donc des idées de représentation des objets, et qui a mis en premier plan, surtout dans son livre très connu qui s'appelait justement Le roi Po, donc voir comment effectivement toute la gestualité du roi au Cameroun détermine par conséquence un rituel effectivement très, très bien intériorisé par les gens, et comment effectivement cette motricité, vraiment comme les gestes, se transforme en rituel et détermine à leur tour un pouvoir. Et ça, effectivement, c'est une très bonne démarche parce qu'on peut l'appliquer dans, évidemment, beaucoup de domaines. Par rapport, évidemment, au domaine des fouilles villageoises, cette praxiologie, cette approche praxiologique comporte aussi un glissement, évidemment, de la conception un peu linéaire du patrimoine comme conservation à une conception beaucoup plus souple et réflectant un changement social qui, évidemment, se manifeste dans tout domaine du social. Donc là, voilà, c'est un peu pour donner une idée de ce que c'est que la material rhetoric. J'ai eu le plaisir de publier un article il y a quelques années avec ma chère amie et collègue Annette Schmidt du musée de Leiden, où on a comparé effectivement, elle aussi, elle a mené beaucoup de recherches dans le delta intérieur du Niger au Mali, dans la même zone que moi-même, j'ai sillonné à partir d'enquêtes ethnographiques. Et on a pu comparer les données qu'on avait par rapport aux fouilles, disons clandestines, elle à partir des traces et moi à partir des souvenirs des fouilleurs. Et c'est très intéressant parce que sa cartographie, disons, archéologique a été intégrée par des données que moi j'avais eues par la mémoire des fouilleurs et vice-versa. Donc effectivement, c'était une collaboration très, très efficace. Mais là, voilà, effectivement, comme je disais tout à l'heure, cette idée de traçabilité, de visibilité du matériel est très ancrée jusqu'à aujourd'hui, à partir surtout des traces de fouilles. Donc là, c'est vraiment une brève synthèse de ce qu'on peut entendre par matérialité, corporalité. Donc on contrapose quelque part, on met en parallèle la visibilité et l'émotion, qui évidemment est beaucoup plus intime, la monumentalité et l'embodiment, c'est vraiment l'intériorisation des choses. Donc ce ne sont pas des choses qu'on voit, ce sont des patrimoines, comme effectivement Pierre Demaret vient de le dire, qui relèvent ce que le grand anthropologue Michael Herzfeld appelle « cultural intimacy », c'est-à-dire que c'est vraiment le vécu qui donne de la densité à la mémoire, qui n'est plus une mémoire institutionnelle, mais c'est vraiment une mémoire qui part de trajectoires individuelles. Classification et mémoire, on revient donc au discours sur les temporalités. Préservation et fonctionnalité. Vision sotériologique de la Berthe, donc c'est un peu cette vision, qu'est-ce qu'on peut dire, eschatologique, c'est-à-dire de la pérennisation en fait de la Berthe et donc la tentative de réduire la Berthe matérielle des choses. Et cette Berthe individuelle, j'ai parlé avec beaucoup de fouilleurs qui considéraient le fait de ne plus travailler sur les sites comme une Berthe affective énorme. Et il y a des gens qui sont vraiment tombés en déprime pour ça, parce qu'ils n'avaient plus... C'était leur vie, en fait, c'était leur défi, c'était leurs habitudes et leur paysage affectif. Et puis, évidemment, le parallèle entre ces outstanding aesthetic values qui souvent conditionnent le choix des patrimoines mondiaux et ce que Tanya Geiser appelle behavioral aesthetic, c'est-à-dire vraiment une esthétique du comportement et du geste qui relève, comme je disais, de trajectoires tout à fait individuelles. Donc évidemment, je vais très rapidement, ce qu'on peut, en déstructurant disons ce discours sur le patrimoine et les représentations qu'on fait du patrimoine, pour ne prendre que l'exemple du Mali, au Mali, comme tout le monde sait peut-être, la fouille des sites a été souvent associée à la pauvreté et en partie à la sécheresse. Donc évidemment, il y a eu tout un discours institutionnel, évidemment soutenu aussi par les bailleurs de fonds, qui ont un peu véhiculé ce binôme sécheresse, pauvreté, pillage. Alors là, pour revenir justement à cette approche corporelle, quand on va effectivement sur le terrain, et je fais des enquêtes aussi bien dans le Delta que dans le sud du Mali, dans la région de Bougouni, on s'aperçoit en fait que ce sont justement les paysans les plus aisés qui financent eux-mêmes les fouilles. Et là, il faut dire, il y a une très intéressante remarque à faire, c'est que la composition des équipes dans le delta du Niger et dans le sud du Mali est très différente. Parce que dans le delta, souvent, il s'agit d'équipes assez rodées, dépendant d'un intermédiaire qui reçoit parfois directement l'argent par des collectionneurs. Par contre, dans le sud, où le pillage est resté un peu en sourdine quelque part, parce qu'on parlait toujours du delta intérieur, ces équipes s'autofinancent presque, et il y a des paysans très aisés, des cultivateurs, souvent primés par la CMDT, qui financent eux-mêmes leurs fouilles. Et donc... je pense que par rapport au terrain, c'est une très grande différence à remarquer. Donc là, pour conclure cette petite parenthèse sur les fouilleurs, ce qu'on remarque, c'est que par rapport à ce discours officiel sur le patrimoine et le pillage donc, des biens culturels, les paysans développent à leur tour, en tant que groupes marginaux, des trajectoires d'héorisation et qui dénotent, comme je disais, une sorte d'inégalité sociale dans la gestion du patrimoine. C'est vrai qu'on a défini le pillage un génocide culturel, mais on a aussi défini ce discours élitiste sur le patrimoine mondial comme un apartheid culturel. Donc je veux dire, il y a du pain sur la planche pour se confronter sur quels critères faut-il considérer d'un point de vue éthique pour que tous les acteurs en place soient représentés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de représenter une cohabitation d'acteurs très hétérogènes. Donc voilà, pour conclure, voilà une question provocatoire. cette vie sociale des objets, souvent offusquée dans la représentation dans les musées, quelqu'un tout à l'heure soulevait à juste titre, qu'est-ce qu'on doit faire dans les musées de ces objets issus de fouilles clandestines? Eh bien, est-ce que cet élément de la corporéité ne peut pas devenir un nouveau tournant dans les politiques des musées, c'est-à-dire montrer les actes de production de la vie sociale des objets. Ne pas mettre seulement les objets en tant que tels, même avec évidemment un background en expliquant qu'il s'agit de, comme ça a été le cas pour Vallée du Niger, un cas que tout le monde connaît, mais vraiment comme on essaie de le faire aux États-Unis à travers le social work, le projet Social Work, essayer de donner de la voix aux invisibles quelque part, essayer de mettre en scène l'invisibilité. Donc, à mon avis, pour revenir et conclure, et là j'en termine à une réflexion que je faisais récemment dans un article, la muséologie est considérée comme une science sociale et à partir de là doit témoigner deux étapes qui constitue son objet. Dans le cas du musée, ceci n'est pas le cas, dans la mesure où, en fait, les actes de production qui amènent, et les choix, évidemment, qui amènent à l'exposition de l'objet, ne sont pas mis à la portée du public. Et là, je m'arrête là, mais ça serait un débat très intéressant aussi par rapport au livre que James Coon a publié en 2009 sur les rapports de confiance entre les musées et son public. Donc voilà, de quelle confiance parle-t-on? Je vous remercie.
Merci beaucoup Christiana pour ces points de vue un petit peu différents. Théorique, anthropologique, je pense que c'était intéressant de contraster des visions différentes dès le début de la conférence. Christiana, peut-être que quelques personnes ont des questions pour toi. Si tu veux rester au micro, peut-être, c'est plus facile.